une anecdote que je peux raconter. Oui. Mon épouse, je crois qu'écoute actuellement, elle me pardonnera. Mais c'est elle qui m'a dit un jour, quand je lui disais, mais je voudrais écrire, elle me disait, mais si tu t'arrêtais 5 minutes, aussi peut-être, bien, tu arriverais à écrire. Bon,
et voilà. Oui, non, mais c'est vrai que c'est après, pas évident.
Et finalement, c'est une tendinite qui m'a mis le pied. Et oui, c'est paradoxal, c'est amusant. C'est une tendinite qui m'a permis de me lancer dans ce premier roman, parce que j'exerçais des fonctions de proviseur du lycée français de Lubumbashi, en République démocratique du Congo.
D'accord.
Et j'avais, bien sûr, professionnellement beaucoup de travail, mais je courais aussi beaucoup. Et cette tendinite m'a libéré énormément de temps, puisque tous mes entraînements m'étaient tombés à l'eau. Et voilà, et c'est ce qui m'a permis d'écrire ce
voilà, programme. Et tu le regrettes pas ?
Eh bien alors, voilà, j'écris celui-là, peut-être pas dans l'idée d'en écrire d'autres, mais j'avais envie, c'était une histoire d'adoption qui me tenait à cœur, que j'avais envie de transmettre. Mmh. Et je l'ai fait, il a reçu, en toute modestie, un certain succès.
Ouais.
Et bien, ça va. Après, je me suis dit, si tu continuais, et puis
quand tu es pris, quand même, on en parlait hors antenne, mais quand tu es pris par la passion d'écrire.
Voilà.
C'est ça qui est formidable, c'est que c'est une passion, c'est pas tu comptais pas en vivre.
Ah non. Hein,
les
petits écrivains. On ne vit pas.
Voilà, il y en a. Moi je dis toujours, il y en a une dizaine, quinzaine, mais après le reste peu cher, c'est il faut pas qu'ils comptent là-dessus
On écrit simplement pour transmettre des émotions.
Mais bien sûr,
moi c'est mon but. Et voilà. Et après, bon, c'est vrai qu'après, financièrement, eh bien, il faut bien sûr faire de la promotion, faire des salons, des présentations.
Oh, mais c'est un plaisir.
Mais voilà.
Robert, c'est un plaisir aussi. On rencontre des gens sympas. Comme toi. Et non, mais c'est vrai, moi je sais que les salons, c'est autant pour quand j'y vais, bon maintenant j'ai plus trop le temps avec la radio et tout, mais quand j'y allais, c'était autant pour être en présence de gens déjà qui ont la même passion, ça c'est important, qu'on peut parler de choses qu'on connaît tous, et la sympathie, la gentillesse, c'est surtout ça, parce que c'est vrai que dans un salon, tu sauras me le dire aussi, c'est pas là qu'on va vendre 50 livres, mais on se fait connaître.
Bien sûr, ce sont des passages incontournables, bien évidemment, mais comme tu le disais, des lieux aussi, voilà, d'échanges.
C'est convivial.
Qui sont très riches, voilà, on fait des rencontres. Superbe, oui.
Alors maintenant, on va venir dans le vif du sujet. Alors, tu nous as dit que donc ton premier roman qui s'appelle, alors c'est compliqué, alors, c'est pas du provençal, hein,
Akasuba.
Akasuba.
Ah, oui. Alors ça veut dire soleil, c'est de la langue bantou. Ça veut dire soleil en langue bantou.
D'accord.
Et donc la métaphore donc du soleil est présente dans le livre régulièrement. Mmh. Donc c'est ce mot que mon personnage va entendre. Au Festival d'Avignon, d'ailleurs, il entend ce mot, c'est un petit gamin qui a été adopté, enfin, un petit gamin, j'aime bien, 25 ans, mais enfin, à mon âge, à 25 ans, maintenant...
C'est des gamins. Hein, Sacha, vous êtes des gamins.
Voilà, il va entendre ce mot, va résonner à lui, et ça va lui donner
l'envie,
même un besoin très fort de retourner en Afrique pour essayer de retrouver ses parents biologiques.
Comme beaucoup, souvent, de gosses adoptés.
Exactement.
Qui ont besoin de retourner sur leur passé, on va dire, et savoir un petit peu d'où ils sortent.
Tout à fait. C'est un thème que je souhaitais aborder.
C'est intéressant. Et
apporter la réponse, ce serait prétentieux, parce qu'il y a autant d'adoption, il y a autant de réponses que d'adoption.
Bien sûr, exactement.
Mais c'est une réponse que j'ai
apporté. Bon, comme il y a pas mal... Tu m'as dit tu as fait 10 livres. Hein,
voilà, le 11e est en cours d'écriture.
Et en plus, le 11e, vous vous rendez compte, il fait que ça. Et ton épouse, tu la vois de temps en temps.
Merci Roland de dire ça. C'est une très bonne question, parce qu'elle est toute totalement partie prenante du projet. Ben oui, je profite. On a dit qu'on se dit tout comme
mais
ça.
Mais oui. pas des choses. Attention, pas de pornographie sur l'antenne.
C'est un mot qui est absent de mon vocabulaire. Non, disons, oui, je disais qu'elle est partie prenante du projet, puisque l'écriture, mon écriture se fait essentiellement, et bien c'est marrant, dans les Landes. C'est dans les Landes, on part avec notre petite caravane tous les mois de septembre, depuis que je suis bien sûr à la retraite, qu'on est à la retraite. Et là, j'écris, j'ai un bloc, il n'y a plus personne, sur la plage là-bas, un petit camping très sympathique, plus personne sur la plage, j'ai mon petit siège.
Bloc, comme un peintre qui...
Exactement, bloc, un crayon, une gomme, et mais souvent la gomme elle ne me sert même pas, et j'écris. J'écris un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi.
Tu as l'inspiration à ça.
Voilà, exactement.
Et chez toi, tu n'écris pas.
Chez moi, si. Après, je réécris.
D'accord. Tu as l'idée. J'ai compris. Tu as l'inspiration, l'idée sur place. Tu mets ça, tu couches ça vite fait. Tu couches ça sur ton bloc. Et comme tu peaufines chez toi.
Exactement. Ça sort, mais là, et c'est là que mon épouse intervient, puisque quand j'ai écrit, donc au crayon gris sur un bloc, j'arrache les pages, je les donne à mon épouse, qui, elle, tape ça, mais tel quel. Tel que je l'ai écrit. Ouais. Alors, bien sûr, c'est plein d'incohérences, d'erreurs. Qu'importe. Parce que
je connais.
L'émotion, voilà. Mais l'émotion est là. Parce que c'est un premier jet.
Premier jet, c'est.
Qui sort. Et elle tape ça. Et puis ça se passe. On reste un bon mois là-bas. Et quand je reviens, finalement, le roman est préécrit, je dirais. Et là, maintenant, commence après, pendant 6 mois, la réécriture avec l'ordinateur.
Oui, bien sûr. Maintenant, c'est tellement commode. Mais c'est vrai que c'est dans un premier temps qu'il y a les idées qui s'accumulent dans ta tête. Comme tu disais, tu les couches avec plein de fautes d'orthographe, plein d'oublis, de machin. Et après, le plaisir, il est là, c'est de te, j'allais dire, déchiffrer, de te, de t'auto corriger et de rajouter. Tu fais une ligne, mais avec ta ligne que tu as fait, avec ton inspiration, tu arrives à faire 3 pages. On est d'accord ?
On voit que tu écris.
Quand tu me parlais de ça, je me voyais. C'est fou quand même. On le disait, tiens, avec la personne que j'ai reçue l'autre jour, il m'excusera, Marcelin.
Je ne le connais pas.
Marcelin. On disait qu'on pourrait passer des heures en parler de notre passion. C'est fou, hein. Parce qu'on a les mêmes sens, les mêmes plaisirs, les mêmes sensations, les mêmes envies, j'allais dire. Et alors, quand le matin, le soir, etc. Parce qu'on en parlait aussi de ça.
Alors, quand j'écris donc le roman...
Le roman lui-même, oui.
Le roman lui-même, donc, au crayon, sur la plage là-bas. Là, c'est à peu près 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi.
Voilà. Mais quand tu es chez toi,
quand je suis chez moi, je suis plutôt à ce moment-là d'après-midi, parce que je t'avouerai que le sport, pour moi, est quelque chose de capital. La course à pied et le vélo, mais maintenant, puisque mes genoux commencent à affaiblir un peu. Voilà, donc le matin, je le consacre au sport essentiellement et à mes autres activités.
Et l'après-midi, c'est toi.
Et l'après-midi, voilà.
Le soir, tu n'écris pas le soir.
Non.
Parce qu'on en parlait, alors c'est rigolo, lui il me disait c'est le matin. En se réveillant, il a les idées. Et moi, c'est le contraire. J'écrivais, puisque j'ai un peu arrêté là, de 9h du soir à 2-3h du matin.
Ça, je suis incapable.
Mais par contre, je me fixais une limite. J'arrivais à 3h, j'arrêtais. J'aurais pu encore, mais j'arrêtais. Je me disais, tu passeras pas la nuit. J'ai jamais passé une nuit écrivant, tu vois. Et moi, c'est ça, il me faut le sombre, le noir, tu vois, presque là, dans mon petit coin,
chacun a sa manière.
Alors, Robert, On va passer. On a une minute. D'accord. Le deuxième que tu as écrit, c'est lequel?
Alors, après ce roman, donc à Kassouba, je me suis dit, tiens, je voulais m'essayer aux nouvelles. Écrire aux nouvelles, c'était quelque chose de très intéressant. Alors, je me suis dit, puisque le roman a obtenu un certain succès, je vais essayer d'écrire des nouvelles. Et j'en avais déjà une ou deux, quand même. Donc,
sous
la main. Il m'en fallait quand même une bonne dizaine.
Oui, c'est ça.
Alors, j'ai écrit huit autres nouvelles. Il me fallait un thème, et puis j'ai pris, on en parlait tout à l'heure, j'ai pris la passion.
Toute passion.
Voilà, toute passion, des passions,
mais pas. Oui, ça peut être sportive, ça peut être
amoureuse, voilà. Politique,
oui, aussi, etc. Oui, oui. Bien sûr, voilà. C'est intéressant.
Donc je fais vivre mes personnages sur la passion jusqu'au bout.
Ok. Bon, Robert, tu sais qu'on met un peu de zizik entre... sinon, on aurait pu en respirer après. Et nos auditeurs, il faut qu'ils nous suivent. Bon, chers auditeurs, on se retrouve dans 3 minutes à peu près. Allez, Sacha, à toi.
Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM.
Tu voudrais tourner la page, changer le paysage, oublier tout, pour des lendemains sans nuages. Tu voudrais laisser la peur, ce qui pèse au fond de ton cœur. Oublier tout, c'est ce qui range un peu le bonheur. J'ai croisé quelqu'un comme toi, oui, sur la route, qui n'osait plus danser. Et la vie passe comme un bel été. Prends les bons, les mauvais côtés. Tout ce qui fait de toi, que tu es toi. Ne te retourne pas, parapa. Ne te retourne pas, parapa. Malgré les hivers et les coups bas, prends la vie comme elle va. Ne te retourne pas, parapa. Ne te retourne pas, parapa. Malgré les hivers et pas à pas, prends la vie comme elle va. Comme des visages, et j'oublie rien moi, ni mes racines, ni mes paysages. À chaque jour c'est lueur qui se révèle dans le fond de mon cœur. Et j'oublie rien non, ni les rires, ni les gens qui pleurent. Moi je veux pas que tu t'endormes là sur tes doutes. Pas de doute non. Allez viens danser. Ne te retourne pas, parapa. Ne te retourne pas, parapa. Malgré les hivers, coup bas, prends la vie quand même pas. Ne te retourne pas, parapa. Ne te retourne pas, parapa. Malgré les hivers et pas à pas, prends la vie quand même pas. Ne te retourne pas, parapa. Ne te retourne pas, parapa. Malgré les hivers et les coups bas, prends la vie quand même pas. Ne te retourne pas.
Et voilà, chers auditeurs de Fly FM, vous êtes bien dans Culturez-vous, et toujours avec mon ami Robert Millet, qui est donc un écrivain accompli, on va dire, puisqu'il va sortir son 11e roman, on en parlera tout à l'heure. Alors, tu avais fait des nouvelles, après tu as fait... Le troisième, c'est quoi? Dis-moi. Alors, tout. Parce qu'on va les passer en revue quand même.
Alors, j'étais enseignant de profession, au départ, une formation d'instituteur. Je revendique ce terme.
Tu as bien raison.
Et donc, sachant qu'il y a eu en plus des fins de classe primaire, des CM1 et des CM2, oui. J'ai eu envie d'écrire pour eux,
ah, oui.
Donc d'écrire un roman jeunesse.
D'accord.
Et
ah oui.
C'est là que j'ai écrit mes aventures en Provence.
D'accord.
Les cigales témoigneront.
Voilà, d'où la photo.
D'où la photo.
Des jeunes. Voilà. Dans un bord.
Exactement. Et ce livre, donc du coup, a été lui aussi bien reçu.
Bien reçu.
Et en
bien
particulier
reçu.
Par des enseignants du Vaucluse qui se sont pris à l'aimer et puis à vouloir le faire partager à leurs
bien.
Élèves.
D'accord, ils voilà, faisaient donc, des cours.
Voilà, c'est pas un livre justement pédagogique.
Oui, mais non,
en
non.
Tant
mais...
En tant qu'enseignant, bien évidemment, on y met du pédagogique. Mais c'était surtout, avant tout, un livre pour donner.
À celui du que ouais, quoi.
Donner envie de lire.
Voilà. Alors après, dis-moi, Robert, qu'est-ce qu'il y a écrit?
Alors ensuite, qu'ai-je écrit? Ah oui, ensuite, j'ai écrit donc 15 ans. Une vie comme une vague.
Ah, ça c'est déjà plus romantique, plus romancé, on va dire.
Voilà, plus romancé, mais un livre là, tous sont pleins d'émotions, certes, mais celui-là particulièrement, parce que j'étais donc directeur de l'école française des Saouira, au Maroc,
ouais.
Et j'ai eu dans ma classe, donc c'est une école française, et j'ai eu dans ma classe quand même une petite Marocaine qui s'appelait Kenza,
ouais.
Et qui a subi le poids de traditions mal comprises.
On se comprend justement.
Les,
ouais.
Je suis sûr que les auditrices et les auditeurs comprendront aussi. Non, que je critique les traditions, c'est bien, il en faut.
Bien sûr.
Mais par contre, après, il ne faut pas qu'elles soient détournées. Voilà. Donc, cette parenthèse étant close,
oui.
je dirais donc, j'ai voulu donc, raconter, romancer l'histoire de cette petite élève. Alors, et sur les Yang dans ma classe, l'émotion était là. Alors, je viens de dire, j'ai romancé, parce que heureusement, la Kenza que j'ai eue n'a pas vécu ce que je viens vivre à mon personnage.
Mais c'est ça le but d'un roman,
voilà,
justement.
Voilà, exactement. Mais tout est vrai, sur du témoignage, sur du fait réel avéré. Mais voilà, une thématique, chaque fois je le dis, une thématique.
Mais tu es assez éclectique dans tes romans, hein, parce que souvent, on en parlait tout à l'heure, entre autres des grands romanciers, c'est toujours à peu près les mêmes thèmes, les mêmes idées. Toi, par contre, tu pioche un peu dans tous les...
Ah mais oui, si on a l'occasion de continuer à présenter mes romans, oui,
c'est vrai, il n'y en a aucun qui est dans le même registre.
Et comme j'ai dit, oui, c'est quand j'ai
c'est ça, c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur.
Que j'ai vécu, que j'ai envie de retransmettre.
Ou que tu as vécu, ou est-ce que, par exemple, tu vois, je vais dire une bêtise, quelque chose à la télé ou dans la vie, et qui te fait émotion, non, c'est surtout...
Alors, c'est ça, mais tu as raison, très bonne remarque. Après, exactement, j'ai réussi, ce sera le suivant d'ailleurs, à me sortir quand même de ce que,
et voilà,
ce que j'ai vécu moi. Hein, c'est-à-dire je suis moins présent dans le livre suivant, je suis moins présent. Hein, je raconterai donc des faits,
oui.
Des faits que je n'ai pas vécu, qui ne me sont pas intérieurs,
oui,
je
oui.
dirais. Mais là, c'est vrai que dans Kenza, bien sûr, je suis présent dans le livre.
Okay.
Mais des thématiques...
Voilà, oui, c'est ce que
grave, mais toujours,
oui,
ça, je tiens à le dire,
de...
avec quand même, voilà. La lumière au bout, l'espoir.
Il n'y a pas voilà. de... Y a pas, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas quelque chose que quand tu sors de là... tu as envie de... Loin de là, non,
ah,
non,
mais... Tu sors la phrase que je sors habituellement.
C'est pas vrai. On dirait qu'on est entre deux écrivains, là. C'est bizarre, hein, ça. C'est...
Voilà, c'est ça. Moi, je veux, comme tu l'as dit, moi, je ne veux pas que mes lectrices et mes lecteurs, quand ils ont fini mes romans, voilà, ils aient envie de se jeter soit dans le Rhône, soit dans l'Ouvèze, ou dans le...
Ouais, ou dans une rive quelconque, là, ce serait pas grave, parce que... Alors, dis-moi, Robert, maintenant... La question qui tue, justement, on y vient. Lequel de ta... Non, moi je sais on a toujours des préférences, hein. Moi j'en ai fait 4 ou 5, je sais que j'ai des... Lequel ? Allez, choisis. Tiens, il y a quelqu'un qui vient, tu lui dis, il te dit, lequel vous me conseillez ? Ah, le dernier.
Non, alors,
on va en parler d'ailleurs du dernier.
Si c'est donc quelqu'un qui vient me poser la question, me dit, lequel tu me conseilles ? Si je connais un peu la personne, ce sera plus facile.
Ah, hein, oui.
Parce que là, je me dirais, en fonction de la personne,
oui,
je
bien
me dirais, voilà, une personne plus âgée, je me dirais, tiens, peut-être,
ouais, d'accord,
terroir,
d'accord,
etc. Mais si tu me poses, comme tu me poses
voilà,
la question...
Voilà, toi, c'était quel, à toi. Quel moi, tu préfères, toi?
Alors, le terme...
Le premier, le
pas,
premier.
Celui, non, ce, ah. serait, ce serait celui, ben, je peux le présenter tout de suite, c'est
oui.
Quand soufflera l'OTAN.
Oui, c'est qui est un vent, il faut savoir, de, du coin.
Un vent d'Occitanie.
D'Occitanie,
ouais,
d'Occitanie, c'est
d'Occitanie,
ça.
Ouais, du, oui, oui. De l'Aveyron, du Tarn.
Oui, voilà.
À partir du moment, c'est bien sûr l'histoire. Je retrace la vie de mes grands-parents espagnols qui ont quitté l'Andalousie, la province des Huelva.
À l'époque de la guerre d'Espagne.
Alors, ils ont quitté, alors, pas tout à fait, ils ont quitté l'Espagne en 1925 sous le régime donc d'Alphonse XIII qui avait nommé ce Primo de Rivera,
oui, oh là
qui
là.
Était déjà,
oui,
était déjà
mais, un
on
fou.
Peut dire, on peut dire le mot, voilà, un fou. Dictateur, déjà un dictateur. Donc mon grand-père qui était un petit peu engagé politiquement,
oui.
et qui n'était pas très argenté, il faut le dire aussi, donc a souhaité quitter la misère,
ouais,
et,
comme
et puis cette vie-là, et donc il est parti, il a pris donc, avec son épouse, mon oncle, 10 ans, et ils sont arrivés dans l'Aveyron. Ils ont été accueillis dans l'Aveyron, et voilà, et j'ai romancé leur histoire, parce que les pauvres, ils n'ont pas mené, mes grands-parents, une vie qui mériterait un livre, alors j'ai ajouté des anecdotes pour alors, que les lectrices et les lecteurs
et aient envie
de tourner
sûr,
les pages, que ce ne soit pas uniquement une histoire qui me concerne,
oui,
qui,
oui, oui,
qui,
oui, oui,
qui
ben
serait
oui.
aimé de...
Sinon, c'est plus un roman, c'est une autobiographie,
voilà, qu'on va lire en famille.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Alors là, tiens, on va faire une pause musicale. On se rejoint encore, Robert, parce que moi, c'est mes grands-parents italiens du côté de ma mère qui habitaient vers Bergame, enfin en haut, là, et qui sont venus dans le Ventoux. Ils venaient faire ce qu'on appelait du bois, du charbon de bois, etc., tout ça. Pareil, dans les années 20-30, et là, pareil, il y avait des gosses, après ils en ont eu 12, mais des gosses jeunes, etc., pareil. Ouais. Qui n'avaient pas un rond, ils sont descendus. Tu vois comme quoi
c'était,
et c'est ça la France.
C'est ça la France.
Excuse-moi,
on
ne fait pas de politique.
Mais
c'est ça la France.
Alors.
Bon, allez, on coupe. Donc, à tout à l'heure, chers auditeurs.
Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM.
Pourquoi les autres ont leur route qui se croise? Tout est synchro pour que leur cœur s'embrase. À force de jour, les deux sont sous le charme. Nous, c'est différent, le temps manquant. Je me demande où
préférez mettre en valeur votre entreprise, votre commerce, votre produit ou votre événement? La radio est le moyen de communication de proximité qui touche un maximum de personnes en un minimum de temps. Faites appel au service pub de Fly FM, la radio des Sorgues et du Comtat. Notre station vous proposera un projet personnalisable. Situé au cœur des Sorgues et du Comtat, communiquer sur Fly FM, c'est la certitude d'être plus proche des Vauclusiens. Conforter une image de marque, valoriser un produit, confiez votre campagne publicitaire à Fly FM pour un rendu professionnel et de qualité. Pour plus d'infos, contactez Roland au 07 82 20 18 81. 07 82 20 18 81, votre interlocuteur privilégié.
Voilà, chers auditeurs de Fly FM, c'est déjà la dernière partie. Robert, si on pourrait parler, comme je disais à mon invité de la semaine dernière, on pourrait parler des heures. Hein. D'ailleurs, tu reviendras.
Ben, ce sera très
bien. Ah ben, écoute, tiens, quand est-ce que tu l'édites, ton 11e?
Alors, pour l'instant, je pense que ça, il pourrait sortir, je dis bien, il pourrait, ouais, à Noël 2025.
Ah, quand même, mais d'ici là, si on est toujours là,
nous l'espérons.
Tu viendras, je te recevrai avec plaisir.
Ce serait avec moi aussi, avec.
Ah, ben t'inquiète, tu es chez toi maintenant ici. Bon, Robert, je vais te laisser maintenant la parole. Débrouille-toi.
Voilà, alors je la prends très volontiers, merci Roland. Voilà, donc je vais parler un petit peu, bien sûr, mais c'est normal, de mon dernier roman.
Bien sûr.
Pas le dernier, parce que quand j'avais dit ça à ma petite fille, quand je lui ai dit, ça y est, j'ai écrit, mon dernier roman est sorti, ah bon, elle m'a dit, ah bon, papy, tu n'écriras plus. Non, non, pardon, Jim.
Oui.
Dit, ma petite fille, tu as raison, c'est pas mon dernier roman, c'est mon nouveau roman.
Voilà, exactement.
Donc je vais présenter donc mon nouveau roman. Oui, c'est donc dans l'ombre de Jaurès. J'ai voulu non pas faire un livre politique du tout, mais parler de, cette, de ce grand humaniste finalement qu'était cet homme, que même c'était, enfin, les personnes qui ne partageaient pas ses idées ont reconnu quand même donc sa valeur.
Bien sûr. Moi je l'ai partagé maintenant.
Il a eu. Voilà, je m'en doutais. Voilà. Bien sûr que ce roman eh bien, m'a demandé un travail de recherche important. Je ne voulais pas écrire le énième livre sur Jaurès. Il y a eu de très bons essais écrits là-dessus. Moi, j'ai voulu faire un roman. Et on m'a dit que d'ailleurs c'était un petit peu nouveau, novateur, parce qu'on avait rarement, ou peut-être pas, écrit encore de roman, pas sur Jaurès, mais sur un personnage qui s'appelle Jules, et qui va vivre donc à Carmaux, aux côtés des mineurs et des verriers carmausins, et qui va lutter contre l'injustice en particulier patronale du marquis de Solages, qui était le véritable seigneur.
Oui, et seigneur qui s'est présenté à la mairie, etc.
Bien sûr, hein? Voilà. Et donc mon personnage, Jules, bien, va croiser dans sa vie Jean Jaurès. C'est la première fois qu'il le croise, ce sera au lycée La Pérouse à Albi. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi ce livre, et c'est ça, je remonte à mes années lycée, donc au lycée La Pérouse d'Albi, qui a accueilli des personnages, finalement, des lycéens importants, puisque, ben, en particulier, ben, Georges Pompidou, Jean-François de La Pérouse,
l'explorateur,
Rochegude, etc., tout ça était des anciens élèves du lycée. Et moi, donc, j'ai eu la chance d'être élève dans cet établissement et de suivre mes cours de philosophie et d'histoire dans la salle numéro 1 de la cour principale du lycée, celle-là même où Jaurès enseigna en 1881 la philosophie.
Ah oui.
Donc, dans cette salle, eh bien, il y avait donc eh bien, l'estrade, le bureau sur lequel Jaurès eh bien, avait posé ses mains.
Ah, oui.
L'ombre de Jaurès dans cette salle. C'est pour dire que notre professeur d'histoire n'a jamais eu de problème de discipline dans cette salle. C'est incroyable. Et on était tous un petit peu éteints, subjugués par cette présence finalement encore de Jaurès. Voilà, donc, eh bien, je me suis lancé là dans ce roman. C'est une saga familiale. Hein, donc je suis devenu Jules, ce fils de paysan qui a pu intégrer ce lycée d'élite qui était le lycée La Pérouse. Et voilà, mais malheureusement, bien sûr, après ses années bac au lycée, il n'a pas pu aller plus loin, et il va se retrouver auprès des miniers et des verriers carmausins. Et là, eh bien, il va s'engager, il va rencontrer, il y a une histoire d'amour aussi.
Bien sûr, mais il faut, dans un roman, il faut.
Une jeune ouvrière, etc. Et Jaurès passera régulièrement à ses côtés, puisqu'il a été député plus tard,
bien sûr,
à 5 reprises, et il a toujours été aux côtés donc, des verriers, oui. Des ouvriers, je dirais, des ouvrières carmausines et carmausaines. Et voilà, donc c'est une saga familiale. Une saga familiale qui va relater bien, la vie de ces gens-là à l'époque, bien, en particulier des mineurs qui vivaient, des verriers aussi, mais les mineurs avaient une vie peut-être encore plus terrible
bien sûr.
Cette époque au fond des mines. Le père d'ailleurs de mon personnage était mineur et a vécu des trucs extraordinaires. Si j'ai le temps de raconter une anecdote d'ailleurs.
Ah, tu voulais était, oui, vas-y.
Quand il était au fond, oui. Quand il était au fond de la mine, et bien du coup, bien sûr, ils avaient tous peur du grisou.
Eh oui, le grisou, coup de grisou.
Et voilà, le coup de grisou. Et on avait introduit des rats qui permettaient de détecter ça, parce que le rat oui. soit fuyait, soit mourait.
Donc, bien sûr,
s'il
bien
y a
sûr.
Du grisou. Donc, ces rats, et bien sûr, on les a introduits, et puis ça les aidait. Mais ces rats, ils ont proliféré.
Oh là là.
Et à un moment donné, c'était la catastrophe, parce que des rats, ils en avaient eh oui. il y en avait partout. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Ils ont introduit des chats. Ils ont mis des chats pour manger les rats. Mais les rats étaient devenus tellement, avaient proliféré tant.
C'est eux qui mangeaient les chats ?
Exactement.
C'est pas vrai.
Ce sont les rats qui ont mangé les chats. Voilà, pour dire quand même l'horreur qu'était la vie. Puis cette anecdote est particulièrement, justement, terrible. Voilà, bien que dire.
Tu voulais, me lire un passage du livre.
Alors si j'ai une, si j'ai une
allez, minute, on arrête après. Hein, je t'avertis, hein, parce que lui, il est comme moi, Robert. Oh là là, tu reviendras. Alors vas-y, Robert, on t'écoute.
Voilà, c'est le moment. Donc Jules se retrouve à la, c'est la rentrée scolaire. Et Jaurès va prendre ses fonctions au lycée. Et il y a la classe de philo, il n'était que neuf dans cette classe de philo. C'est pour ça que mon personnage, il était fier d'avoir été accepté. Et là, ils attendent l'arrivée de Jaurès dans la salle. Au bout d'une dizaine de minutes, la porte de la classe s'ouvre. Les élèves se lèvent. C'est Jaurès, chuchote le voisin de table de Jules. Entre alors un homme de petite taille, trapu, arborant une barbe noire mal taillée et des cheveux hirsutes. Si on ajoute son costume un peu trop grand pour lui et sa cravate dénouée, cela ne donne pas du tout l'image du professeur de philosophie très titré que Jules imaginait. Sans un mot, Jean Jaurès se rend à son bureau, dépose son cartable, s'éclaircit la voix avec un raclement de gorge, et alors la magie opère. La voix rocailleuse, au fort accent du Tarn, qu'il ne force pas, emplit soudain la salle et semble hypnotiser les élèves. Le professeur se lance dans un discours en évoquant les grands chapitres qui jalonneront son cours. Son éloquence et son regard malicieux font que tous les étudiants sont immédiatement conquis et pour certains même subjugués. Jules sait tout de suite qu'il suivra ce cours de 9 heures par semaine avec une ferveur intense. Que Jean Jaurès soit également le professeur référent de la classe ajoute à sa joie. Il faut que ce professeur soit doté d'un immense charisme pour être capable d'emporter en quelques phrases seulement toute une classe, pourtant constituée de lycéens exigeants et déjà rompus à des études pointues, reconnaît Jules.
Alors, Robert, là, tu nous as fascinés. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, si après ça, chers auditeurs, ça ne vous donne pas envie de connaître la suite de ce roman, c'est que franchement, hein, on aura tout fait pourtant. Non, franchement, c'est déjà bien écrit. Je parle un poil en connaisseur. Et de plus, c'est vrai que c'est très, très prenant. Et la vie de Jaurès, quelqu'un qui l'admire comme moi, ça donne envie, franchement.
Merci.
Ah non, mais je pense que tu as touché vraiment le but, parce que il y a beaucoup de gens qui aiment Jaurès, qui le respectent aussi, comme tu disais.
Ouais, et d'avoir fait un roman,
ouais,
m'a permis justement de montrer une autre
facette
de Jaurès.
On parle parce que rarement de qu'il était prof de philo, tout ça, etc.
Voilà, de sa façon d'être aussi,
oui,
dans le livre, quand il va rencontrer Jules à plusieurs reprises. Voilà, j'aurai l'occasion, et bien en plus, c'est glissé des anecdotes que peu de gens connaissent, parce que, et comme oui, je l'ai dit, ça m'a demandé beaucoup de recherches.
Ah, mais je me doute.
J'ai travaillé 6 mois avant de me lancer.
Je me doute.
6 mois de lecture.
C'est un travail sérieux, bien sûr.
Et en particulier, je sais, pour vraiment m'imprégner de cet homme, de ses idées, j'ai lu son cours de philo.
Ah, directement.
Alors, son cours de philo, c'est 500 pages.
Ah, oui.
Et, alors, en toute honnêteté, je le dis, personne ne m'entend, je peux le dire.
Non, il n'y a personne là. Quelques centaines.
J'ai pas tout compris. Hein.
Ouais, alors,
c'est pour dire que quand on voit ce cours, il était donc retransmis à des élèves de terminale.
Ah oui, oui.
Maintenant, je veux rien dire là aussi, mais
ouais, non.
Si on donnait ce cours maintenant de philo à nos élèves,
ce serait impossible.
Serait-ce possible?
Bon, Robert, tu sais qu'on a quand même des impératifs à la radio, et alors plutôt que de se faire taper sur les doigts par l'ARCOM, on va être obligé d'arrêter. Donc, mais je te dis, tu reviendras dans pas longtemps, je te réinviterai. Maintenant, tu peux dire au revoir à nos auditeurs.
Oui,
tu m'as dit par contre, oui, vite fait, tu es au marché de Noël de Pernes.
Alors oui, alors c'est au mois de décembre, c'est fin, 20,
je crois
le 20 décembre, si le 20 décembre est un dimanche,
hein, donc ouais, c'est 20, ça, ouais.
Donc voilà.
Dans là, et tu es à Malemort du Comtat.
Et à Malemort la semaine avant, donc autour du 14.
Voilà. Tu as un site quand même, Facebook ou quoi, non ou...
Oui, Facebook, oui, c'est ça.
On va sur Facebook, Robert Millet, et on te trouve. Hein.
Voilà, exactement.
Bon, mais ça va. Bon, Robert, ça m'a fait très plaisir de te recevoir et je te dis, tu reviendras dans quelques temps, on reparlera écriture. Voilà, chers auditeurs, j'espère que vous de même, vous avez été passionnés par notre sujet. À très bientôt, Robert, à bientôt.
Un grand merci FM, et merci pour cette complicité, toi. Roland, que j'ai beaucoup apprécié.
Voilà. Bon,
au revoir à toutes et à tous.
Au revoir, à bientôt, au revoir Sacha.
Au revoir, merci. Oui, merci Sacha.
Au revoir, à très bientôt, chers auditeurs.